Les cours du Collège de France, Jean-François Joanny, chaire matière molle et biophysique.
Bonjour d'abord. Donc il y a un séminaire après le cours qui sera fait par Ariel Amir, dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière, et qui vous parlera donc de bactéries. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce que j'ai fait dans les cours précédents. Il y a un paramètre que j'ai complètement oublié dans les cours précédents, c'est que pour croître et se diviser, une cellule a besoin d'énergie. Et c'est ça que je vais discuter aujourd'hui. La façon dont elle utilise cette énergie et dont elle distribue son énergie dans les diverses fonctions qu'elle doit remplir. Parce que ça a beaucoup été étudié sur les bactéries et qu'il y a des modèles simples sur les bactéries, je vais me limiter dans ce cours-là, et spécifiquement dans ce cours-là, à ce qui se passe avec des bactéries. Je vais insister dès le début que ce n'est pas très sûr que ce qui est vrai pour les bactéries sera vrai pour des cellules mammifères dont j'ai plutôt parlé dans les cours précédents. Donc voilà, ce chapitre, donc je l'ai appelé « Métabolisme et croissance cellulaire ». Donc une cellule a besoin d'énergie, et je pense que tout le monde sait que l'énergie, elle vient des nutriments. Et après, donc c'est des sucres essentiellement, hein, ou quelque chose qui ressemble à des sucres. Dans une cellule, quelle qu'elle soit, il y a un peu deux étapes. Il y a une première étape qui s'appelle la glycolyse. La glycolyse, elle casse les sucres en des molécules qui s'appellent des pyruvates. Et après, avec les pyruvates, il faut faire de l'ATP parce que les réactions chimiques qui transforment l'énergie, c'est des réactions qui impliquent l'ATP. Il y a deux façons de faire ça. Il y a une façon aérobie. Et une façon anaérobie. Alors, aérobie, ça veut dire que ça consomme de l'oxygène. Anaérobie, ça veut dire que ça ne consomme pas de l'oxygène. La méthode aérobie, ça s'appelle la respiration. Et la méthode anaérobie, ça s'appelle la fermentation. C'est un peu différent. La respiration, ça se passe dans les mitochondries. C'est un processus qui produit beaucoup de molécules d'ATP, mais qui est un peu lent. La fermentation, ça se passe dans le cytoplasme, c'est un processus bien plus rapide et dans certaines circonstances, ça s'élève le switch pour adapter le meilleur processus de consommation d'énergie. Donc une fois qu'on a fait ça, ça produit de l'ATP et c'est l'ATP qui est utilisé comme fuel cellulaire. Alors évidemment, ces questions de métabolisme, je vais écrire une fois. C'est quelque chose qui est absolument essentiel pour la cellule. Il faut qu'il y ait un flux d'énergie dans la cellule pour que la cellule se maintienne vivante. C'est des questions qui sont très peu étudiées pour les physiciens. Pourquoi ? Parce que même pour les fonctions cellulaires les plus simples, ça implique un réseau de réactions chimiques. Donc c'est souvent beaucoup de réactions chimiques qui sont couplées. En plus, on n'est pas sûr de les reconnaître tous explicitement. Et c'est des problèmes qui sont très difficiles à traiter sans avoir un nombre important de paramètres. Donc il y a des modèles où les gens rentrent toutes les réactions chimiques connues, font des calculs avec les réactions chimiques connues. Ça fait des problèmes à un nombre gigantesque de paramètres. Et dans ce cas-là, ça pose des problèmes d'ajustement des paramètres et de choses comme ça. Ce qu'on aimerait faire, enfin, ce que les gens comme moi aimeraient faire, c'est faire un espèce de coarse graining de ces réactions chimiques. C'est-à-dire, c'est utiliser un peu la même stratégie que celle que j'utilise pour la mécanique. Ne pas décrire le système par tous ses paramètres, mais décrire le système par un certain nombre de paramètres macroscopiques qui sont en petit nombre et qui sont couplés. Alors, depuis que je fais les cours ici, je pense que je vous ai convaincu qu'il y avait des méthodes absolument systématiques pour deviner les paramètres qu'on appelle hydrodynamiques pour la mécanique. Les mêmes choses ne sont pas faisables. En tout cas, je ne sais pas comment il faut le faire pour les réactions chimiques. Et ce programme-là, à ma connaissance, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Alors, il y a des gens qui ont travaillé dans cette direction-là. Je vais vous donner deux noms. Le premier, c'est quelqu'un qui est au Luxembourg, qui s'appelle Massimiliano Esposito. Qui est quelqu'un qui a fait pas mal de travail sur comment est-ce qu'on peut traiter en parallèle tout un tas de réactions chimiques. Il y a un certain nombre de principes. Par exemple, quand il y a des réactions chimiques qui sont couplées, il y a un certain nombre de variables qui sont constantes. Donc on peut déjà éliminer des variables à cause de ça. Ce qu'on aimerait faire, c'est utiliser le même critère que pour la mécanique, c'est-à-dire séparer les réactions lentes des réactions rapides Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien où arrêter la gamme des réactions lentes et des réactions rapides. Et donc ce programme-là, qui a priori est extrêmement ambitieux et extrêmement utile, pour l'instant, moi, je ne sais absolument pas comment on peut le faire. Esposito a fait des choses, c'est très beau, hein, c'est très propre, c'est assez mathématique, mais c'est très très propre. Il y a un autre domaine où il y a beaucoup de réactions chimiques couplées, dont j'ai parlé l'année dernière, c'est ce qui se passe dans les condensats biologiques. Je vous rappelle qu'une des fonctions principales des condensats biologiques, c'est de concentrer des réactifs localement, et ça, ça accélère les réactions chimiques. Pareil, on a des réactions chimiques couplées, et je vous avais parlé des travaux, et Christophe Weber était venu faire un séminaire. Et je vous avais parlé des travaux qu'ils ont fait dans ce cadre-là. Ça nécessite de traiter des réactions chimiques, mais pas seulement des réactions chimiques à l'équilibre. Ce qu'on veut, c'est traiter de la cinétique de réactions chimiques. Et en plus, il y a de l'ATP, de réactions chimiques qui sont maintenues hors d'équilibre par la consommation d'ATP. Donc c'est ça le programme qu'il faudrait remplir. De manière plus générale, les physiciens commencent à être conscients du fait qu'ils n'ont pas assez travaillé sur le métabolisme. Il y a un article qui est assez intéressant, dont j'ai même noté le titre pour une fois, qui a été écrit par tout un tas d'auteurs. Les deux premiers s'appellent Yang. Il y a un article assez bizarre paru dans PNAS, où il n'y a pas vraiment de nouveaux résultats scientifiques. C'est un plaidoyer pour que les physiciens s'intéressent aux questions de bioénergétique dans la cellule. L'histoire est intéressante, ces deux personnes ne sont pas du tout des grands ténors du domaine, c'est deux post-docs qui ont commencé à s'intéresser à cette chose-là. Et puis ils ont voulu transmettre leurs idées, donc ils ont été chercher des tas de grands ponts du domaine. Dans la liste des auteurs, il y a Tony Hyman, il y a Joe Howard, des gens comme ça. Il y a une liste carrément, un programme de ce que les physiciens devraient pouvoir étudier dans ces questions de métabolisme. Moi, j'ai lu ça, j'ai été un peu fasciné par ce qu'il soit là. Je suis très, très convaincu que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est bien de regarder des propriétés mécaniques, des propriétés chimiques de cellules, mais ça, c'est un aspect important. Je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que c'est important pour ce qui est de la croissance et de la division cellulaire, mais c'est important pour quand vous regardez la motilité d'une cellule. S'il n'y a pas assez d'énergie, la cellule ne bougera pas. Et toutes les fonctions cellulaires sont à peu près comme ça. Elles nécessitent de l'énergie. Et il y a aussi la question que je vais discuter aujourd'hui de comment est-ce que la cellule utilise son énergie, comment est-ce qu'elle la distribue dans les différentes tâches qu'elle veut, qu'elle a à accomplir. Donc je me permets de faire de la publicité pour cet article donc, qui est dans PNAS en 2021. C'est pas de la thermodynamique, on peut pas faire de la thermodynamique d'équilibre avec ces problèmes-là, c'est plutôt traiter des flux d'énergie, qui est quelque chose qui est un peu plus compliqué que la thermodynamique classique. La question la plus simple qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça coûte de faire un gène pour une cellule ? Alors, je ne vais pas discuter ça très en détail, mais il y a des articles qui ont été faits là-dessus. Il y a en particulier quelqu'un qui s'appelle Michael Lynch. Qui a écrit un article dont le titre est « The Bioenergetic Cost of a Gene », combien ça coûte de faire un gène, et leur stratégie est extrêmement simple, extrêmement belle. Ils prennent toutes les étapes de la fabrication du gène, ils essayent d'estimer à partir des données et à partir de lois d'échelle quel est le coût du gène. Ça veut dire qu'il faut regarder la transcription, il faut regarder la phase d'initiation, la phase d'élongation, après regarder la traduction, la phase d'initiation et la phase d'élongation. Et avec tout ça, vous avez une image de ce que peut être le coût d'un gène pour une cellule. Je vais vous montrer dans deux minutes des expériences qui ressemblent un peu à ça, qui cherchent qui n'ont pas cherché à faire d'interprétation théorique, mais vous allez voir que ça donne des informations extrêmement précises de ce qui coûte de l'énergie à ce niveau-là. Je vais juste mentionner, parce que c'est quelqu'un qui était postdoc chez nous jusqu'à il n'y a pas longtemps, que F.E. Hilker qui était à l'Institut Curie avec son directeur de postdoc avant moi, qui s'appelait Michael Hinchewski, alors je vais peut-être massacrer la fin du nom, on fait un article qui complémente assez bien l'article de Lynch et Marinoff, en particulier qui regarde certains aspects mathématiques dont Lynch et Marinoff disaient ça doit pouvoir être comme ça, et Effet a traité ça très en détail et montre qu'effectivement ce qu'ils avaient deviné, c'était la bonne chose qu'il fallait deviner. Autant que je me souvienne, alors je n'ai pas vérifié, mais Michael Lynch a écrit un très très gros livre là-dessus, hein, sur les propriétés métaboliques des cellules. Donc voilà un peu la question la plus simple qu'on peut se poser. Ce que je veux vous montrer, c'est un article que j'ai trouvé très beau, alors qui, comme Ariel, vient d'Israël, qui est un article de Kafri. Et Barkai, Nama Barkai, c'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé une fois dans le cours, quand j'ai parlé de robustesse dans la mesure de la taille des tissus, où elle avait aussi fait un article qui était extrêmement beau et extrêmement spectaculaire, où elle montrait qu'il fallait que les taux d'absorption soient non linéaires en concentration, et que dans ce cas-là, la mesure était extrêmement robuste et ne dépendait pas des conditions initiales sous lesquelles on la faisait. Ce qu'elle a fait là, c'est une étude qui est surtout expérimentale et que je voudrais vous montrer maintenant. Alors, c'est un article qui étudie la levure. Donc, c'est toujours la levure du boulanger, ce que j'ai appelé la levure du boulanger, hein, ou la levure bourgeonnante, budding yeast. Et ce qu'elle regarde, c'est qu'est-ce que ça coûte d'ajouter un gène qui n'est pas nécessaire dans la cellule. C'est-à-dire, elle fait des modifications du génome pour introduire un gène que la cellule n'avait pas normalement, et elle demande comment est-ce que la cellule réagit à ça, et qu'est-ce que ça coûte de faire ça. Alors la protéine qu'elle introduit, c'est une protéine qui s'appelle M-Cheri. Alors elle l'introduit sous diverses formes. C'est une protéine qui est fluorescente, donc on peut compter le nombre de protéines que la cellule fabrique. Et puis regardez, alors ce que les gens qui travaillent sur le métabolisme aiment bien, c'est parler de fitness. Je me suis inquiété de savoir comment il fallait dire fitness, je vais dire une fois le mot français. En tout cas, tous les traducteurs que j'ai essayé donnent le même mot, c'est aptitude. Mais je n'ai jamais entendu dire qui que ce soit parler qui que ce soit de l'aptitude, donc je vais garder le mot fitness. Donc ce qu'on veut, c'est mesurer la fitness de la cellule et comment elle change quand on rajoute un gène. Et le paramètre expérimental, c'est le taux de division. Donc c'est 100% ou de croissance. C'est 100% quand la cellule n'est pas perturbée. Et puis quand on rajoute un gène, alors c'est ce que vous avez dans toutes ces courbes-là, quand on rajoute un gène, ça diminue le taux de croissance. Donc le fait que ça coûte de l'énergie, ça force la cellule à consommer de l'énergie pour la production de ce gène-là, ça diminue l'énergie qui est disponible pour croître et ça diminue le taux de croissance. Un deuxième résultat, c'est que ce n'est pas un truc universel, la façon dont ça diminue le taux de croissance, ça dépend de l'environnement. Ça veut dire qu'elle a fait des expériences différentes dans différents types d'environnements, qui sont schématisés ici. Les environnements standards, c'est SC. Il y en a un qui est à faible phosphate, il y en a un qui est à faible ammoniaque, puis il y a un truc qui s'appelle YPEG. Ça, c'est un milieu que les gens qui travaillent sur les levures aiment bien, qui en français s'appelle la gélose. Je ne peux pas tellement vous dire ce qu'il y a de plus. La différence avec les autres, c'est que les levures croient très doucement dans ce milieu-là, alors qu'elles croient vite dans les autres milieux. Donc l'idée de cet article, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui crée cette diminution du taux de croissance et quelle est la phase de production de ce gène-là qui crée la diminution du taux de croissance. Ça veut dire qu'elle veut distinguer entre les gènes ou les environnements, puisque ça dépend aussi de l'environnement, où le taux de croissance décroît à cause de la transcription, ceux où il décroît à cause de la traduction, et puis une fois qu'on a fixé ça, quelle est la phase des deux qui permet de... Qui coûte le plus d'énergie. J'ai pris ce milieu-là, YPEG, parce que c'est celui où l'expérience me paraissait la plus simple à discuter. Ce qui est fait dans cette expérience-là, donc ça, c'est la levure auquel on a ajouté cette protéine MPRI, puis elle rajoute un composant qui s'appelle DAMP qui déstabilise les ARN messagers. Ça veut dire que la transcription se fait correctement, mais la traduction ne se fait pas correctement. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'on a envie de regarder les protéines qui sont produites, donc il faut qu'il reste des protéines produites. Mais il y a moins de protéines produites. Et s'il y a moins de protéines produites, on peut regarder ce qui se passe. Alors l'idée astucieuse, c'est de tracer le pourcentage du taux de division, du taux de croissance, en fonction des protéines qui sont produites. Donc on trace en fonction de la pluorescence, et puis on regarde, et vous voyez qu'il y a deux courbes là. Il y en a une où il n'y a que MCHERI, qui est cette courbe noire. Il y en a une où la traduction n'est pas possible, et on trouve la même courbe. Ça veut dire que la seule chose qui est importante, la seule variable qui est importante, c'est la fluorescence. Si la seule variable qui est importante, c'est la fluorescence, ça veut dire que ce qui compte, c'est le nombre de protéines. Ce qui coûte de l'énergie, c'est le nombre de protéines. Et donc, c'est la traduction qui est importante. Donc, quand je mets domine, c'est ça qui coûte le plus d'énergie. Et la transcription est... coûte moins d'énergie. Ils ont une autre façon de faire ça, c'est qu'ils peuvent varier le nombre de copies du gène. Si le nombre de copies du gène est plus grand et que c'est la transcription qui domine, l'énergie consommée est proportionnelle au nombre de copies du gène. Ce n'est pas le cas dans cette chose-là, donc on trouve des résultats différents pour des nombres de copies du gène. Donc il y a au moins deux expériences qui nous disent que la traduction domine. Puis après, il y a une deuxième expérience qui est ici. On veut savoir si c'est l'initiation de la traduction qui domine ou si c'est l'élongation. Alors l'idée, elle est naïve, mais ils arrivent à la faire, c'est de dire ben, cette protéine MCHERI, je peux la faire courte ou je peux la faire longue. Et puis si c'est la même chose quand c'est court et sans c'est long, ça veut dire que c'est l'initiation. Si c'est l'élongation qui compte, les protéines qui sont plus longues vont coûter plus d'énergie. Donc ils ont des constructions de protéines, celle-là, MCHERI stop, elle est plus longue. Et vous voyez que toutes les courbes en traçant de la fluorescence, en fonction de la fluorescence, donc en fonction du nombre de protéines produites, sont sur la même courbe, ce qui veut dire que c'est la première étape qui est importante, c'est l'initiation de la traduction qui est importante. Donc en combinant les expériences comme ça, ici, donc il y a en gros deux variables. Est-ce que c'est l'initiation ou l'élongation? Et est-ce que c'est la transcription ou la traduction qui est importante? Et en changeant de milieu, vous voyez que par exemple pour celle-là, c'est l'initiation de la transcription qui compte. Pour celle-là, c'est l'initiation de la traduction. Pour celle-là, c'est l'élongation de la traduction. Celle-là, qui est le milieu standard, elle est un peu au milieu. Et donc la transcription et la traduction comptent toutes les deux. Donc on arrive comme ça à détecter quel est exactement le processus de production du gène qui domine la consommation d'énergie. Ça dépend du milieu. Et puis après, ils ont regardé les propriétés de la cellule quand on lui introduit un gène. Et de façon un peu surprenante, la cellule augmente son volume. Donc je vous ai dit, le taux de croissance diminue, la cellule augmente son volume. Ça veut dire que le cycle cellulaire est allongé. La cellule augmente son volume, et puis ce que je n'ai pas mis ici, c'est qu'il regarde aussi la production de protéines intrinsèques à cette chose-là, c'est-à-dire de protéines qui n'ont pas été rajoutées de l'extérieur, et la cellule en produit plus. Donc la cellule augmente son volume, et elle produit plus de protéines. Alors on regarde des phases qui sont des phases de croissance exponentielle. Le volume, ça va avec les acides aminés, hein, comme je vous avais dit, et dans ces phases-là, toutes les propriétés sont proportionnelles. Donc si on augmente le volume, on augmente le nombre de protéines intrinsèques. Donc voilà des courbes, hein. Ça c'est ce milieu que j'ai mis ici, ça c'est les autres milieux. Quand le taux de croissance diminue parce qu'on rajoute les protéines non nécessaires, comme ils les appellent, le volume augmente bien à chaque fois. Ce qu'ils en concluent, c'est une chose qui est un peu étonnante, c'est de dire que si la cellule produit plus de protéines, ça veut dire qu'elle n'est pas en manque de ribosomes. Et donc, ce qui limite la croissance, ce n'est pas le nombre de ribosomes. Ce qui est quelque chose qui n'est pas très classique, ce que je vais vous dire dans une minute, c'est que dans les bactéries, étudier le métabolisme ou étudier les ribosomes, c'est à peu près la même chose, parce que c'est les ribosomes qui limitent la croissance. Pour celle-là, ce n'est pas les ribosomes. Et donc, ça veut dire que ça dépend des cellules et ça dépend des milieux, mais qu'il y a des milieux et des cellules pour lesquels ce qui limite la croissance de la cellule, ce n'est pas le nombre de ribosomes qui sont accessibles. Elle a une interprétation qui est qualitative. L'interprétation qualitative, c'est que le cycle de la cellule est pas mal plus long que le temps de production d'un ribosome, c'est 4 ou 5 fois plus grand, alors que dans les bactéries, ce n'est que 2 fois plus grand. Donc ça permet d'avoir beaucoup de ribosomes au cours de la vie de la cellule. Et donc le nombre de ribosomes est suffisant pour remplir toutes les fonctions cellulaires. Donc voilà cet article qui me paraît donner une belle introduction à ce que j'ai envie de discuter. Comme je disais, ce que je veux faire maintenant, c'est regarder les bactéries. Dans les bactéries, il y a une espèce de consensus qui est ce qui coûte de l'énergie, c'est la traduction et c'est la phase d'élongation. Donc, ce que ça veut dire, ce qui coûte de l'énergie, c'est faire les ribosomes. Et donc, ce à quoi on va s'attacher, je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la cellule distribue son énergie pour remplir ses fonctions. La question qui est là, c'est comment est-ce qu'elle distribue ses ribosomes pour remplir les fonctions. C'est-à-dire, que vont faire les ribosomes? Il y a une chose qu'ils doivent faire, c'est les ribosomes doivent faire des ribosomes. Et ça, il y en a 30% qui servent à ça, à fabriquer des ribosomes. Il faut fabriquer les protéines essentielles qui assurent le fonctionnement de la cellule. Puis après, il y a toutes les protéines qui sont des enzymes qui permettent d'assurer les autres fonctions cellulaires. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de discuter, c'est comment la cellule répartit son énergie entre faire des ribosomes, faire les protéines qui sont essentielles, et puis faire les enzymes qui assurent le fonctionnement, j'allais dire, chimique de la cellule. Alors, il y a plein de données sur ces choses-là, et ça commence dans les années 60 même. Les articles qui ont beaucoup attiré mon attention, c'est des articles qui sont à la fois expérimentaux et théoriques, et qui ont été faits par le groupe de Terry Waugh, qui est à San Diego, alors qui rapporte des données de la littérature, puis qui a un modèle dont vous allez voir que mathématiquement, il n'est pas compliqué du tout, mais qui décrit pas mal de choses et des choses qu'on arrive assez bien à sentir avec les mains. Il a eu deux post-docs, un qui s'appelle Scott et l'autre qui est Stefan Klump, que moi je connais bien, qui était quelqu'un qui travaillait dans le groupe de Reinhard Lipowski. Donc ça, c'est des choses qui datent des années 2010. La dernière chose que je vais dire, c'est que ce que je vais raconter là, ça a été en partie expliqué dans le séminaire de Marco Cosentino, il y a 2 ou 3 cours, où il a fait un rappel très très bref du métabolisme des bactéries avant de présenter ce qu'il faisait lui. Je vais faire ça un peu plus en détail et je vais essayer de vous amener pas à pas à la façon dont ça marche. Donc ça, c'était le 3e séminaire de la série. Donc voilà le programme du cours d'aujourd'hui. J'insiste sur le fait que ce que je vais raconter, c'est vrai pour les bactéries, et c'est pas forcément vrai pour les autres types de cellules. Ils insistent bien là-dessus. Et puis, je vais faire ce qu'ils font, c'est-à-dire je vais présenter les résultats expérimentaux. D'abord, vous allez voir qu'ils sont très clairs, les résultats expérimentaux. Après, il y a des modèles qui ressemblent terriblement à ce que j'ai fait dans les cours précédents sur comment la cellule produit ses protéines dans un régime exponentiel, comment est-ce qu'elle fait son volume. Ces modèles-là, ils sont assez schématiques et ils en sont très conscients, donc ils disent ça justifie bien les lois expérimentales. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de justifier les lois expérimentales, mais au moins on est cohérent avec des choses qui marchent bien dans à peu près toutes les cellules. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Alors je vais commencer par des lois de croissance. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la composition en macromolécules de la cellule. Bon, je vais mettre de la bactérie. Alors, les bactéries qu'ils utilisent dans ces articles, c'est surtout E. coli. Il y en a d'autres pour lesquels ça marche. Il y a des gens qui ont fait des expériences avec d'autres bactéries, mais les expériences, quand je ne précise pas, c'est que c'est des expériences qui sont faites avec E. coli. Alors, les macromolécules, c'est l'ADN. L'ARN, j'ai un peu des problèmes, je vais switcher entre ARN et RNA. Je suis désolé. Ce que je veux simplement vous rappeler ici, c'est qu'il y a deux types d'ARN. Il y a des ARN ribosomaux. J'ai l'habitude de l'écrire comme ça. RRNA, ça c'est les ARN ribosomaux. Ça c'est les ARN qui participent à la fabrication du ribosome, qui est une espèce de machine infernale avec à la fois ces ARN-là et les protéines. Il y a les ARN messagers. Ça c'est les ARN qui sont utilisés pour produire les protéines sur lesquelles vont s'accrocher les ribosomes. Puis il y en a un troisième type qui s'appelle les ARN de transfert. Ça, c'est les petits ARN qui viennent s'accrocher au ribosome et qui chargent sur le ribosome les acides aminés qui sont utilisés pour synthétiser les protéines. Donc voilà tous les types d'ARN dont je vais être amené à parler. Vous allez voir dans deux minutes que c'est celui-là, donc il y a la plus grande partie des ARN, ils sont ici et pas dans les autres. Ce n'est pas ceux que je connais le plus, mais c'est ceux-là qui sont là. Alors, la variable expérimentale, ils appellent petit r, c'est la masse d'ARN divisée par la masse de protéines. Et la masse de protéines, si vous admettez ce que j'ai dit dans les cours précédents, c'est pas exactement, mais c'est en gros la masse sèche de la cellule. Alors vous allez me dire pourquoi ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder les ribosomes. Donc ça serait plutôt la fraction de masse des ribosomes. Et alors ici, ils font une décomposition qui est spectaculaire, mais qui me paraît très cohérente. Ils disent que ça, c'est la masse de... Pardon. Donc il y a 1 sur m. Ici, il y a la masse d'ARN divisée par la masse d'ARN ribosomaux que multiplie la masse d'ARN ribosomaux divisé par la masse de protéines ribosomales que multiplie la masse de protéines ribosomales. Mathématiquement, ce n'est pas attaquable. Donc la masse des ARN ribosomaux sur la masse totale des ARN, c'est 85%. Donc 85% des ARN dans une cellule servent à faire des ribosomes. Donc ça, c'est une constante, c'est 85%. La masse des ARN ribosomaux sur la masse des protéines ribosomales. Alors, il va falloir que je spécifie ce que j'appelle les protéines ribosomales. Ce que je vais inclure dans les protéines ribosomales, c'est à la fois les protéines qui sont des constituants des ribosomes et puis toutes les protéines qui servent à faire marcher le ribosome. Par exemple, il y a une protéine qui prend les acides aminés. Quand l'ARN de transfert est sur le ribosome, ça amène l'acide aminé qu'il faut, ça charge l'acide aminé, et après cet acide aminé-là est polymérisé. Cette protéine-là, ça s'appelle une synthétase. Elle est absolument essentielle, s'il n'y a pas de synthétase, le système ne marche pas. Je vais les inclure là-dedans. On peut faire des modèles plus sophistiqués, et il y a un des articles du groupe de Terry Waugh qui rajoute ça comme un type de protéine, c'est-à-dire qui fait la différence entre les protéines qui font vraiment partie du ribosome et les protéines qui aident au ribosome. Ça ne change pas grand-chose, donc je vais considérer que toutes les protéines sont là-dedans et celles qui dominent, c'est celles qui servent à faire le ribosome. Donc si c'est celles qui servent à faire le ribosome, ça c'est juste la stoichiométrie du ribosome. Ça veut dire combien d'ARN il faut dans un ribosome et combien de protéines il faut que j'ajoute à ce ribosome pour fabriquer le ribosome. Alors, c'est connu ça, il y a même eu un prix Nobel de chimie sur les ribosomes. Un jour où j'étais à un colloque en Israël, mon postdoc qui s'appelait Yariv Kafri a vu que à ce colloque-là, il y avait Madame Ada Yonat, qui est une des personnes qui étudie la structure du ribosome. Il m'a dit, vas-y, ses exposés, c'est extraordinaire. Il était bien plus théoricien que moi. Ma femme a travaillé avec elle. Moi, je l'ai été écoutée, j'ai été séduit. Ben, moi aussi, j'ai été séduit. Elle étudie la structure, mais elle étudie aussi la dynamique du ribosome avec une précision qui m'a laissé pantois. Et pourtant, Dieu sait si je ne suis pas fanatique de la biologie structurale. Donc, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas la seule. Hein. Ils ont été trois à avoir le prix Nobel, mais il y a une dizaine d'années, il y a eu un prix Nobel de chimie sur la structure du ribosome. Et la structure du ribosome, elle contient ça, et ça, c'est un nombre aussi. Il y en a plein de protéines attachées au ribosome. Par exemple, il y a des chaperones, où il y a des molécules qui vérifient que les choses se sont bien passées, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur à cet endroit-là. Donc toute cette machinerie-là, elle est inclue dans ce facteur-là. Mais si ça, c'est une constante, et que ça, c'est une constante, alors pareil que ce que je fais depuis le début, ça dépend peut-être du ribosome, le nombre exact, mais en moyenne, ça ne fluctue pas beaucoup. Donc je peux considérer que ces deux nombres-là sont des constantes. Ça veut dire que la masse de RNA, elle va être proportionnelle à la masse des... À la masse des ribosomes. Je vais appeler MR, la masse des RNA maintenant. Et ça, il faut que je l'écrive dans le bon sens parce que, autrement, mes trucs. Donc, la masse du RNA. C'est la masse du ribosome fois un facteur qui est ces deux trucs-là. Et ce facteur-là. Ils l'appellent rho, ils l'ont estimé dans E. coli, c'est 0,76 en gros. Ce que ça veut dire ça, c'est que quand on mesure ce rapport R, ce qu'on mesure, c'est bien la masse de ribosome divisée par la masse de RNA, qui est une quantité que je vais appeler phi R. Donc voilà la justification de pourquoi c'est ce paramètre qu'on mesure. Et après, l'idée, c'est la même que tout à l'heure. Ce qu'on va mesurer, c'est le taux de croissance de la cellule ou le taux de division de la cellule qui est dans une phase exponentielle, une phase de croissance exponentielle. Et ce que mesurent les expériences, c'est comment varie ce rapport petit r ou ce rapport phi r, quand on varie deux choses, la qualité du nutriment, ça c'est le milieu extérieur, et le taux de traduction. Ça, c'est les deux paramètres qu'on a envie de varier. Alors, donc j'ai dit, je commence par les expériences. Je vais me mettre à gauche, là. Et ce que je veux discuter, c'est la fraction de masse. Ce qui m'intéresse, c'est cette quantité phi r au niveau théorique, ou cette quantité mesurée qui est petit r, et puis je connais le rapport entre les deux qui est ce facteur rho. Donc r, c'est rho fois phi r. Donc la première expérience, c'est cette expérience-là. Donc ça, c'est le facteur R en fonction du taux de croissance. On fixe le taux de traduction et puis on regarde comment varie R en fonction de lambda. C'est une droite avec un intercept. Donc on trouve que R, c'est un certain R0 plus lambda sur KT. La deuxième chose, c'est que ce KT-là, il est proportionnel au taux de traduction. Alors c'est un peu caché, mais c'est quelque chose que je vous ai déjà montré dans le deuxième cours. Oubliez le R0, je reviendrai après sur le R0. Ça dit que lambda, c'est KT fois R. En gros, R, c'est la fraction de ribosome. Ce que je vous ai montré dans le cours où je vous ai parlé de traduction, c'est que le taux de croissance ou le taux de division de la cellule, c'est la fraction de ribosome fois le taux de traduction. Et tout le reste, c'est des constantes numériques. Donc il reste ça à justifier, je vais le faire tout à l'heure, mais ça c'est une loi expérimentale. Donc c'est pas aberrant de dire que ce KT dépend du taux de traduction et c'est directement proportionnel. Alors après ils le font pour plusieurs milieux extérieurs ou plusieurs souches de bactéries. Ce qui diffère ces souches de bactéries, c'est que le taux de traduction est différent. Donc voilà. Un taux de traduction, un deuxième taux de traduction, un troisième taux de traduction. C'est toujours une droite. Et puis, après, il se fixe ici, donc le long de cette courbe-là, les différents points, ça correspond à des qualités de nutriments différentes. Il se fixe pour une qualité de nutriments et il regarde comment varie R en fonction du taux de croissance à qualité de nutriments donnée quand on varie le taux de traduction. Et vous voyez que il y a une droite qui va dans l'autre sens. Donc cette deuxième description, je fixe la qualité des nutriments, je varie ce nombre-là. Quand je varie ce nombre-là, je change la courbe, je me place à un taux de nutriments donné, et puis j'ai une courbe qui est dans l'autre sens. Ça veut dire que R c'est un R maximum moins lambda sur une deuxième constante que je vais appeler Kn. Cette constante Kn, en faisant cette construction-là, je l'obtiens pour un taux de nutriments donné. Donc elle, ce qu'elle va caractériser, c'est la qualité des nutriments. Alors, je n'ai pas expliqué ce tableau-là. Ça, c'est les différents milieux qu'ils utilisent. Et ça, c'est les différentes souches de bactéries. Et vous avez ici l'inverse de la pente qui est là en fonction du taux de translation. Et vous voyez que ça change. Donc, ce qui se distingue, c'est ces différentes souches de bactéries, c'est bien le taux de traduction. On peut aller un peu plus loin et faire la manip de façon un peu plus systématique. Donc ça, c'est la droite que j'ai écrite ici. Donc c'est R en fonction de lambda pour une quantité de nutriments donnée. Et puis exactement comme tout à l'heure, si je me place à un taux de traduction donné, je vais obtenir la droite que j'avais tout à l'heure. Donc en lisant le diagramme comme ça, j'ai la variation à taux de nutriments donné. Et en variant le diagramme comme ça, j'ai une variation à taux de traduction donné. Et pareil, vous avez les milieux qui sont là ici. Donc voilà le résultat expérimental. Je reviens sur l'autre courbe dans une minute. Mais avant ça, il faut que je vous parle de ce qu'ils appellent les secteurs de protéines. Donc dans la cellule, il y a un pool de protéines. Comme ce que je fais depuis le début, ce que je n'ai pas envie de faire, c'est de considérer toutes les protéines une par une. Donc on va les regrouper en classes de protéines. Et dans ces articles qui sont les plus simples, il y a trois classes de protéines, donc il y a trois secteurs. Et un secteur qui est les ribosomes, les protéines associées aux ribosomes. Thank you. Alors, ces protéines ribosomales, j'allais dire, elles sont normales. Elles sont normales en ce sens que, comme je vous ai décrit pour une protéine moyenne, si le volume croît de façon exponentielle, la masse sèche croît de façon exponentielle et la quantité de protéines ribosomales croît aussi de façon exponentielle. Quand on varie le taux de croissance, ces protéines ribosomales, elles satisfont la loi que j'ai montrée au-dessus. Et je vais appeler donc phi grand R la fraction. Ensuite, il y a une classe Q. Et la propriété des protéines dans la classe Q, c'est que ces protéines-là, la fraction de masse de ces protéines, ne dépend pas du taux de croissance. Ça, c'est ce qu'il appelle les protéines Q. C'est ce que vous avez ici. C'est une fraction importante, hein. Ça fait à peu près la moitié des protéines. Typiquement, les protéines ribosomales, alors c'est pas celui-là qu'il faut que je montre, c'est celui-là. Les protéines ribosomales, ça fait 30%. Donc c'est là. Ça, c'est 30%. Ça, c'est 50%. Et ça, ça inclut notamment toutes les protéines qui sont essentielles, où qu'il ne faut pas toucher, parce que si on les touche, la cellule ne marche plus. Et puis il reste une dernière partie qu'ils appellent P. Alors, c'est celle que j'ai discutée dans le cours beaucoup jusqu'à présent, qui est tout ce qui est enzymes et tous les types d'enzymes, c'est-à-dire qui détruisent des molécules ou qui fabriquent des molécules. Donc voilà comment ils divisent les protéines. Il n'y a que trois classes, ça veut dire que toute protéine doit être soit une protéine P, soit une protéine, alors il y a un certain flou là-dessus qu'on pourrait lever en faisant des modèles un peu plus sophistiqués sur les protéines ribosomales, et puis cette fraction phi Q qui est constante. Ça veut dire que la somme des fractions de masse est égale à 1, donc phi R égale 1. Maintenant, si je prends le Q et que je le mets de l'autre côté, j'ai dit que la fraction de protéines Q ne dépendait pas du taux de croissance. Donc ça, c'est un nombre. C'est en gros 50%. Ça veut dire que phi R plus phi P doit toujours être égal à ce nombre-là. Ou si vous voulez, je peux changer la répartition entre phi R et phi P. Mais ce que je peux faire de plus, c'est phi R égale 1 moins phi P. Donc phi 1 moins phi Q, c'est ce que je vais appeler phi R max. C'est la fraction maximale de protéines ribosomales. Alors, qualitativement... Parce que ça, c'est fixé. C'est ça leur hypothèse. Et si c'est fixé, la seule chose que je peux faire, c'est soit un peu plus de ribosomes, mais dans ce cas-là, il faut que je fasse moins de phi P. Et à la limite où je fais que des ribosomes, phi P est égal à 0, je ne peux pas faire plus.
Mais j'ai quand même besoin d'enzymes.
Et ça veut dire que la cellule ne marche plus dans ce cas-là, si on est exactement à phi R max. On est bien d'accord, la cellule ne marche plus. Mais si je bricole génétiquement ma cellule de façon à faire ça, évidemment, si je suis très proche de plus R max, il y a très peu d'enzymes et la cellule ne va pas être très très en forme. Alors, je vais réécrire cette loi-là comme phi P égale phi R max. Et cette loi-là, c'est plus ou moins la même chose, parce que phi R, je vais écrire que ce terme-là, lambda sur Kn, c'est R max moins R. R max, c'est la même chose que phi R. R max, c'est la même chose que phi R max. R, c'est la même chose que phi R. Donc ce terme-là, c'est phi P. Donc ça veut dire que, uniquement avec ces hypothèses-là, phi P, c'est lambda sur Kt, sur Kn. Et puis, il faut que je mette mon facteur 0,76. Je me suis trompé 12 fois là-dessus, je vous rassure. C'est lambda sur Kn fois rho, où rho, c'est ce facteur égal à 0,76 que j'avais tout à l'heure. Ça veut dire maintenant que si je prends n'importe quelle protéine qui est une enzyme dans la cellule, que je change le taux de croissance, si c'est vraiment une protéine du secteur P, sa fraction de masse doit augmenter linéairement avec le taux de croissance. Et c'est ce que vous avez ici pour cette enzyme qui est la bêta-galactosidase. Ça augmente bien linéairement avec le taux de croissance, ça part de zéro, et puis ça dépend de la qualité des nutriments, parce que les qualités des nutriments, elle est calculée par ce facteur Kn qui est ici. Donc voilà les résultats expérimentaux. Juste peut-être pour faire le lien avec l'article de Nama Barkai, ici, φQ plus φR plus φP est égal à 1. Si je rajoute une protéine qui n'est non nécessaire, c'est une protéine qui n'existe pas dans la bactérie, elle va occuper une fraction de masse, et ça veut dire que je réduis ces deux secteurs-là. Expérimentalement, ce que ça fait, c'est que ça décroît, ça diminue le taux de croissance. Alors, ils ont un modèle pour ça qui est un peu à la main, mais c'est ça que ça fait à chaque fois. Quand on rajoute une protéine, alors, il y a une raison simple, si on diminue φR, on diminue le nombre de ribosomes, on diminue la traduction et on diminue le taux de croissance. Donc ça, c'est le rôle des protéines intrinsèques. Donc on a un formalisme qui est super simple, qui est basé sur ces lois expérimentales. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer d'où sortent ces lois expérimentales. Enfin, d'où sortent. Je vais vous donner un modèle extrêmement naïf pour ces lois expérimentales. Martin.
Peut-être que j'ai mal compris, mais j'ai l'impression qu'on base la discussion du coût pour la cellule sur le coût de production des protéines,
oui.
Y compris dans le cas du ribosome. Et avec le facteur constant que tu as écrit là-bas, on a l'impression que les protéines, c'est juste 24% de la masse des ribosomes.
Ah non, les protéines... Non, ça, c'est pas la fraction. Je dis que la masse, c'est la masse, c'est pas la fraction, ça, hein. La masse d'ARN, c'est 0,76 fois la masse de ribosome.
Oui, donc il reste 24% de masse de protéines.
Non, parce qu'il y a les autres protéines, elles sont en plus de MR, elles sont indépendantes de la masse, enfin, elles ne sont pas corrélées directement à la masse d'ARN.
Mais la masse de protéines ribosomales est corrélée à la masse d'ARN ribosomale, non?
Mais ça, c'est pas... Mais rien... La masse d'ARN ribosomal, elle va baisser avec le... Oui, les protéines ribosomales, les ARN ribosomaux, ils sont reliés. Mais les protéines totales ne vont pas être reliées.
Pas les protéines totales, juste le
ribosome. Oui.
Donc j'ai l'impression que l'énorme majorité de la masse de ribosome, c'est l'ARN. Mais que dans la discussion qu'on fait, on dit que le coût, on l'assimile essentiellement au coût de la production des protéines.
Attends, il y a une différence entre les deux, c'est que les ARN, ils sont dégradés assez vite.
Donc c'est beaucoup moins cher de produire de l'ARN que de produire des protéines.
Oui, oui, et c'est bien ce que j'ai dit au début. L'hypothèse, et il y a toute une liste que j'ai mis dans mes notes là, mais que je ne vous ai pas donné, d'articles qui commencent dans les années 50, qui montrent bien que ce qui compte, c'est l'élongation de la traduction, et que ça dépend des ribosomes, et que ça veut dire que la transcription est négligeable par rapport à la traduction et par rapport à la phase d'élongation de la traduction.
Mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi c'est tellement plus coûteux de produire des protéines que de produire de l'ARN?
Je ne sais pas répondre à cette question-là. Par contre, ce à quoi je sais répondre, c'est qu'on sait moduler ces quantités-là. Je te donnerai un exemple après. C'est-à-dire, et c'est ce qui s'est passé dans l'article que j'ai montré avant. Ici, ce que fait cette molécule, la DAMP, c'est qu'elle détruit les ARN. Donc on sait manipuler les ARN et regarder combien on a de protéines à la fin. On en a très peu. C'est pour ça que les points rouges, ils sont coincés sur la gauche, parce qu'il y en a très peu. Donc on sait manipuler ces quantités-là. Je ne sais pas s'ils l'ont fait dans la bactérie, mais on sait manipuler la transcription et la traduction pour arriver à les comparer. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. J'ai un peu peur des questions de biologistes qui pourraient me dire que c'est ce que j'ai dit n'est pas vrai, mais je suis prêt à l'admettre, donc ce n'est pas grave.
Peut-être plus méthodologique, mais préciser comment est-ce qu'ils injectent, est-ce qu'ils mettent un plasmide, ils changent ils éditent le génome de la levure, enfin comment est-ce que...
Dans cette expérience-là?
Ouais,
Il y a la moitié de l'article qui explique ça.
Ah oui, d'accord.
Je suis désolé, je suis obligé de vous renvoyer à ça, surtout c'est des choses que je ne connais pas bien. Mais c'est expliqué très très en détail et une partie très très importante de l'article est dédiée à ça parce que, évidemment, c'est important pour cette chose-là. Alors, deuxièmement, ce que je vais faire là, c'est en gros ce que je vous ai fait dans le troisième cours, sauf qu'ils le font avec les fractions de masse, et moi je les ai fait avec les concentrations volumiques, mais vous m'accorderez que c'est forcément pareil. Donc on est dans une phase de croissance exponentielle. Ça veut dire que la masse de protéines, ou la masse sèche de la cellule, elle augmente proportionnellement à la masse sèche, comme ça on a une croissance exponentielle. Donc ça c'est lambda fois m. Ensuite, ce qui produit les protéines, c'est les ribosomes. Donc je vais écrire que la variation de la masse, ici, c'est un facteur k fois le nombre de ribosomes. Et puis ce que font les auteurs dans ces articles-là, c'est qu'ils considèrent qu'il y a une fraction de ribosomes qui est inactif et une fraction de ribosomes qui est actif. Les inactifs, ils ne produisent pas de protéines, et les actifs, ils produisent des protéines. Et évidemment, ici, il faut que je mette les ribosomes actifs. Bon, ça, c'est en gros ce que j'avais écrit dans mon cours, sauf que je considérais que tous les ribosomes étaient actifs. Ceci dit, je vous ai montré après un calcul sur les ARN polymérases qui a été fait par Wang et Lin, qui vous montrait qu'il y en avait un certain nombre qui étaient inactifs en solution et qui fixaient cette fraction d'ARN polymérase inactif. On pourrait refaire le calcul ici. On trouverait qu'il y a un certain nombre de ribosomes qui flottent en solution, et ça serait lié au taux d'accrochage. C'est l'équilibre d'accrochage et de décrochage des ribosomes. Et les seuls qui comptent ici sont actifs. Donc ce n'est pas du tout surprenant qu'il y ait une fraction de ribosomes inactifs, c'est plutôt le modèle que je vous avais donné, parce que j'ai essayé de faire au plus simple, qui oubliait ces choses-là. Donc ça, c'est simplement KT, N ribosome total, moins N ribosome inactif. Et maintenant, si je divise tout ça par la masse, et puis que je multiplie et que je divise par la masse des ribosomes, je vais trouver que lambda, c'est un certain facteur gamma, phi r, moins phi r inactif, ou gamma, c'est kt, sur la masse des ribosomes. Ça, c'est exactement la première loi que j'ai là. Je peux écrire que la fraction de ribosomes, c'est lambda sur gamma plus quelque chose. Dans la suite, je vais appeler ça phi r minimal, parce que cette quantité-là doit être positive, autrement la cellule ne croît plus. Donc cette loi-là, c'est la même que celle-là avec mes facteurs rho et mes facteurs qui ramènent les nombres à la masse. Et vous pouvez vérifier que gamma, c'est simplement rho kt. Et comme c'est ça, vous voyez bien que kt qui est là est proportionnel au taux de traduction qui est ici, qui est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est un modèle assez minimaliste, mais qui explique bien l'observation expérimentale, qui est que, je peux vous la réécrire en fonction de phi, que phi r, c'est lambda sur gamma, plus phi r minimum, qui est cette loi-là, où j'ai simplement fait des changements avec des constantes qui sont un peu triviales sur ce coefficient. Donc ça, c'est simple. Après, il me faut un modèle pour l'autre loi, qui est celle-là. Et ce qui explique ça, c'est la production d'acides aminés. Ça, c'est la façon dont je consomme les acides aminés. J'utilise les acides aminés pour faire des protéines. Ça, c'est les façons dont je produis. Donc, ce que je suis en train d'étudier là, c'est le flux d'acides aminés à travers la cellule. Alors, la théorie est à peu près exactement la même que celle que je vous ai déjà faite dans ce cas-là. Toujours la même chose, sauf que je vais parler de fraction de masse. Donc, la dérivée de la masse d'acides aminés sur dt. Alors, ce qu'ils supposent pour la bactérie, enfin, ce qu'ils savent pour la bactérie, alors Jacques m'a fait remarquer que Christine Petit lui avait dit que c'était toujours du transport d'acides aminés qui les amenait dans la cellule. Il y a un article de Jacques Monod qui s'occupe de transport de matériel à l'intérieur de la cellule. Monod parle surtout de sucre, mais la théorie qu'ils utilisent, c'est la théorie de Monod qui date de 1949. C'est un gros article de revue sur les bactéries. Et au milieu, il parle du transport de sucre. Et il dit que c'est pareil le sucre que les acides aminés. Donc on va utiliser ce modèle-là. Alors je vais l'utiliser dans une version un peu simplifiée. La protéine de transport, c'est une enzyme. Donc elle fait partie de la classe P. Donc c'est proportionnel à MP. Évidemment, il y a une fraction des protéines de la classe P qui sont cette enzyme de transport. Donc il y a un facteur ici que je vais appeler FA. Et puis, il y a le taux de production chimique des acides aminés. Ça, c'est exactement la même loi que ce que je vous avais écrit dans le cours précédent. Et puis, on consomme les acides aminés. On consomme les acides aminés parce qu'ils font des protéines. Donc on va mettre moins bêta. DMP sur DT. Donc voilà la loi de production des acides aminés. Ce que je veux faire maintenant, c'est ramener ça non pas au nombre d'acides aminés, mais à la fraction de masse des acides aminés dans la cellule. Alors je vous laisse, vous avez la loi de croissance de la masse ici, et puis en changeant. Alors c'est pas DMP, c'est DM ici. Parce que je fabrique des ribosomes aussi avec des protéines ribosomales aussi avec les acides aminés. Alors je vais vous écrire juste la loi de croissance de la masse, il n'y a pas de raison que je... Donc ça fait dire que DA sur DT... KA FA phi P moins lambda donc ça c'est juste vous calculez DMA sur DT comme ça, vous calculez DM sur DT avec la loi qui est là et vous arrivez à ça. Puis après, si vous regardez des nombres, il s'avère que le A qui est là est toujours petit. Donc voilà la loi de production de la fraction de masse d'acides aminés dans la cellule. Maintenant, si je cherche un état stationnaire, c'est-à-dire si je demande en état stationnaire du flux quel est le nombre d'acides aminés dans la cellule, dA sur dt, c'est 0. Ça veut dire que lambda égale un facteur nu fois phi p. Euh, Lambda égale nu sur phi p ou nu CK FA sur bêta. Alors, si je veux ramener ça à ce que j'avais écrit là-bas, phi p, c'est la fraction de protéines du secteur P. Ça, c'est phi R max moins phi R. Donc, ça veut dire que lambda égale nu qui est cette loi-là. Donc ce modèle, qui est assez naïf, hein, qui est juste basé sur le fait qu'il faut fabriquer les protéines de transport, nous donne bien la loi qui est trouvée expérimentalement. Alors j'insiste sur le fait que c'est peut-être trop simplifié, il y a peut-être d'autres paramètres qui devraient rentrer là-dedans, mais au moins intuitivement, on arrive comme ça à avoir cette loi-là. Donc après j'ai deux lois, j'ai lambda égale nu phi r max moins phi r, puis j'ai lambda égale gamma . Alors cette loi, elle est un peu bizarre parce qu'elle ne fait pas intervenir la masse d'acides aminés ici. Et elle ne fait pas intervenir du tout le nombre d'acides aminés. Alors c'est là que Mono fait un truc un peu plus subtil, c'est qu'il utilise une cinétique de Michaelis-Menten pour K. Celle qu'ils utilisent, eux, ce n'est pas tout à fait une cinétique de Michaelis-Menten, c'est plutôt une cinétique de Hill, qui dit que Ka, c'est un certain K4 fois 1x. Non, c'est pour ça, c'est une cinétique directement de Michaelis-Menten, c'est après que j'ai besoin de la cinétique de Hill. Sur Ax, plus un certain K. M, où AX, c'est la concentration externe en acides aminés. Ça, c'est simplement dire qu'il y a des acides aminés qui sont à l'extérieur de la cellule, que ce que fait le transport, c'est comme une réaction chimique qui le prendrait à l'intérieur, qui le mettrait à l'extérieur, et que ce transport-là, il est catalysé par la protéine, qui est la protéine de transport. Et après, ça, c'est directement la loi de Michaelis-Menten. Ça veut dire que mon facteur nu, il a un facteur AX sur AX plus KA. Évidemment, s'il n'y a pas d'acides aminés à l'extérieur, il ne peut pas y en avoir à l'intérieur, parce qu'on n'en importe pas. Ça marche, hein, puisque si AX égale 0, il n'y a pas d'import d'acides aminés. La limite que je vais prendre là, c'est la limite où AX est plus grand devant KA. Et dans ce cas-là, je retrouve bien la loi qui est au-dessus. Donc après, je suis laissé avec ces deux choses-là. Et je vais vous l'écrire parce que... Oui, j'arrive. Que quoi ? Ah non, c'est positif, hein. C'est les mêmes relations qu'ici. Enfin, je viens de les effacer malheureusement. Mais c'est bon. Phi R est plus petit que phi max. Donc lambda, c'est proportionnel à quelque chose de positif. Et là, phi R est plus grand que phi min. Donc lambda est positif aussi. Donc nu et gamma sont positifs.
Mais c'est pas vrai que quand j'augmente phi R, les bandes de la première courbe, c'est nu.
Celle-là, elle est négative et celle-là, elle est positive. C'est ce que j'avais avec mon R. J'avais des courbes qui étaient comme ça et des courbes qui étaient comme ça. Je vais t'écrire ce que je voulais écrire et puis ça va te... Je pense que ça va te résoudre ton problème. Mais Si tu résous ça, tu peux le considérer comme un système de deux équations à deux inconnues qui sont lambda et phi r. Et tu peux résoudre ça. Donc lambda
c'est fier max moins fier min sur 1 sur R plus 1 sur lambda. Donc je vais écrire nu plus gamma fois nu gamma. Et phi R, c'est nu phi max plus gamma phi min sur nu plus gamma. Elles te vont, ces équations, il n'y a rien d'incohérent avec ça. Hein, à condition que phi R max soit plus grand que phi R min, mais...
Les transporteurs, c'est les transporteurs ABC, c'est ça?
Alors, qu'est-ce que c'est que les transporteurs pour les acides aminés? Je ne sais pas répondre. Monsieur, vous savez répondre? Je ne sais pas. Il faut qu'ils soient importés vers la cellule, et l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a une enzyme qui assure le transport intérieur à la cellule. Je ne sais pas répondre à cette question. Je réfléchirai et je te... Je crois pas. Mais bien entendu que ça n'est vrai que pour les bactéries. Alors, donc la dernière chose que je veux discuter, c'est le taux de division de la cellule. Une variable qui n'apparaît pas là-dedans, c'est le nombre d'acides aminés ou la fraction de masse des acides aminés dans la cellule, c'est-à-dire ma variable petit a. Et pour un petit a donné, je vais avoir une valeur de nu, je vais avoir une valeur de gamma, et donc ce qui régule dans la cellule le taux de division et la fraction de protéines ribosomales, c'est le nombre d'acides aminés qui est dû au flux d'acides aminés que j'injecte dans la cellule ou pas. Donc il y a un équilibre qui est dû à la régulation par les acides aminés des flux que je viens de discuter. Alors, il y a une chose très simple qu'on veut voir. Supposons qu'il y a beaucoup d'acides aminés. S'il y a beaucoup d'acides aminés, ça veut dire que j'ai trop d'acides aminés pour fabriquer les protéines FIP dont j'ai besoin. La cellule ne fabriquera pas de protéines FIP. Ce qu'elle va faire à la place, c'est qu'elle va fabriquer des ribosomes. Donc s'il y a beaucoup d'acides aminés, j'allais dire que l'offre est supérieure à la demande. La production d'acides aminés la demande, c'est de quoi j'ai besoin pour faire les protéines FIP. Si ça c'est vrai, je vais fabriquer des ribosomes. Mais si je fabrique des ribosomes, comme la somme des fractions de ribosomes et des fractions de protéines est égale à phi R max, je vais diminuer FIP et je vais réduire la production d'acides aminés. Donc rien que par ce mécanisme, qui est juste cette équation chimique que j'ai écrite ici, hein, si je diminue FIP, je produis moins d'acides aminés. En fait, il y a des mécanismes de régulation directs. Hein. Les mécanismes de régulation, il y en a un certain nombre qui sont connus. Pas de moi, malheureusement. Ça veut dire qu'il y a toute une liste dans les articles de ces gens-là de mécanismes qui vont faire ce que je vais dire. Ce que font les mécanismes de régulation, c'est qu'ils changent KA, c'est-à-dire le taux de production des acides aminés, ou FA, qui est la fraction de protéines qui créent les acides aminés, c'est-à-dire la fraction des protéines de transport. Donc ces deux quantités-là sont régulées par A, et si A est très grand, nu décroît. Et la loi qu'ils utilisent pour ça, c'est d'écrire que nu, c'est nu 0. Je vais l'écrire A 1 sur 1 sur Cagney au carré. C'est une espèce de loi, cette fois de Hill et pas de Michaelis-Menten, avec un exposant d'ordre 2. Si A est égal à 0, le nu est égal à nu 0. Et si A est très grand, les mécanismes de régulation entrent en jeu et ça tue la production d'acide amine. Donc voilà la première chose qu'ils écrivent. Et puis après, il y a ce qui se passe pour la consommation d'acide aminé. Il est à peu près évident que s'il y a très peu d'acides aminés, on ne va pas fabriquer de protéines. Donc le coefficient gamma, qui est là, hein, qui est la production de protéines, il doit tendre vers zéro quand A tend vers zéro. Alors là, le facteur que les gens considèrent comme important, c'est ce que j'ai appelé les tRNA synthétases. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la protéine qui vient charger les acides aminés sur les ribosomes. S'il n'y a pas d'acides aminés, on fabrique pas de, on peut pas charger les tRNA synthétases et le ribosome ne peut rien produire. Donc ça veut dire que gamma tend vers 0 quand A tend vers 0. Et la loi qu'on utilise, c'est gamma égale gamma 0, facteur de A, sur K gamma au carré. Ça tend bien vers zéro. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ces lois avec un carré ici? Je ne crois pas que ça soit important. Ils veulent simplement ici une courbe qui soit comme ça, et dans l'autre cas, une courbe qui monte. C'est les formes qu'on trouve généralement pour les réactions enzymatiques dans la cellule, avec un exposant 2 ici que je ne saurais pas justifier et que je, peut-être qu'il y a des mesures qui permettent de conduire à ça. J'en suis pas conscient. Maintenant, si nu et gamma dépendent de A, ce que vont nous donner ces relations, c'est une variation de phi R avec A et de lambda avec A. Alors, je vais vous dire ma façon un peu violente de faire ça, et puis après, je vous montrerai le résultat numérique de cette chose-là. Donc ça, c'est le calcul du taux de croissance. Et donc il faut que j'utilise ces lois-là avec ces choses-là. Il y a deux constantes supplémentaires qui sont kγ et kν. Et ce qui est important, c'est que dans la bactérie E. coli, kγ est plus petit que kν. Maintenant, c'est plus petit, c'est pas beaucoup plus petit. Ma façon de sauvage de le faire, c'est de dire qu'il y a trois régimes. Celui où A est très petit devant kγ, très petit devant kν. Il y a un régime où A kγ est très inférieur à A et très inférieur à kν. Et il y a un régime où kγ est très inférieur à kν, très inférieur à A. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de dire qu'il y a deux limites pour kγ. Pour A petit par rapport à kγ, gamma est proportionnel à A2. Si A est grand, c'est gamma 0. Et puis même chose ici pour nu. Si A est petit, nu c'est nu 0. Et si A est grand devant kν, nu c'est 1 sur A2. Donc après, j'ai plus qu'à reporter là-dedans. Et puis à vous tracer, avec ces approximations de sauvage, fier. De A et lambda en fonction de A. Alors si je prends phi R, à A tout petit. À A tout petit, gamma est égal à 0. Gamma est égal à 0, donc ça veut dire que ces deux termes-là ne sont pas là. Ça veut dire que phi R, c'est phi max. Donc il y a phi R max ici. Donc si je fais A très grand, nu est petit, donc ces deux termes n'existent pas, et ça fait phi R min ici. Donc à grand A, je dois être ici, à petit A, je dois être là-bas. La courbe, je vais vous la dessiner comme je l'ai dessinée moi. Dans ce premier régime, elle décroît jusqu'à ce que A égale K gamma. C'est important que K gamma soit plus petit que K nu pour qu'elle décroisse, parce qu'autrement elle croîtrait. Vous pouvez vérifier ça à la main. Ensuite, dans le régime intermédiaire, nu égale nu 0, gamma égale gamma 0, donc il n'y a plus de A. Donc la courbe est à peu près constante. Et puis ici, elle décroît, et elle décroît comme 1 sur A2. Donc évidemment, elle n'a pas d'angle, donc c'est une espèce de courbe simple comme ça. Mais au moins, mon approximation un peu sauvage, et ici, il y a K nu. Je vous laisse vérifier, hein. En faisant cette approximation-là, on a ça en une ligne pour chaque fois. Si on regarde le taux de croissance, donc il y a K gamma ici, K nu ici, il y a nu fois gamma, au milieu c'est nu 0, gamma 0, donc au milieu ça va être une constante. Puis après, entre ces deux facteurs-là, il y en a un qui tend vers 0 et il y en a un qui est constant. Donc ça veut dire que ça tend vers 0 des deux côtés. Un truc comme ça. Donc voilà le taux de croissance en fonction de la fraction de masse des acides aminés. Donc en introduisant ces réactions, ce que ça me donne, c'est une relation entre phi R et A. Une relation entre lambda et A, ou lambda et phi R que j'avais déjà, puisque ça c'est compatible avec les deux relations entre lambda et phi R, mais il manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose parce que je ne sais pas quelle est la valeur de A à l'intérieur de la cellule. Alors je vais vous montrer les. Je vais vous montrer peut-être si. Donc voilà les. J'allais dire les vraies courbes, c'est-à-dire si vous tracez ces courbes. Normalement. Donc ça, c'est un schéma un peu du flux d'acide aminé. Nu, c'est l'injection d'acide aminé dans la cellule par transport. Ça, c'est le pool d'acide aminé qui a ma fraction de masse petit a qui est là. Puis je le consomme de l'autre côté en fabriquant des protéines. Et voilà la courbe, donc, phi R en fonction de A. Alors, ma région constante, là, que j'ai exagérée de façon volontaire, c'est un point d'inflexion qui est au milieu ici. Ici, nu est plus petit que nu 0. Ici, gamma est plus petit que gamma 0. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, ce qui régule, c'est la consommation d'acides aminés. Et à cet endroit-là, ce qui régule, c'est l'import d'acides aminés dans la cellule. Et puis si vous regardez la courbe de lambda en fonction de A, ça c'est la partie montante qui est là. Il y a une région où ça atteint un maximum et ça redescend de l'autre côté. Le taux maximum de croissance de la cellule, il est obtenu entre K gamma et K nu. Si vous variez nu 0, il suffit de regarder, mais c'est à peu près évident, vous allez augmenter le taux maximum d'expansion de la cellule, et puis vous allez aussi changer un peu cette courbe-là, c'est montré sur la courbe d'après. Ce qui me manque, c'est un critère pour fixer A. Et ce critère pour fixer A, ce qui le fixe, c'est une régulation du nombre de protéines qui. Une régulation du nombre de ribosomes qui fabriquent des ribosomes. je vais mettre régulation de la concentration en ribosome. Je mets de la fraction, c'est mieux que la concentration. Il y a au moins deux mécanismes qui sont connus. Le premier, c'est sur la composition, sur la fabrication des ribosomes. Si on a trop de protéines, donc il y a deux composants dans les ribosomes, il y a les rRNA. Et puis on a les protéines dont la masse est MR. Si MR est trop grand devant le nombre de rRNA, il y aura des ribosomes qui seront en excès et qui ne pourront pas se lier. Il y aura des protéines ribosomales qui ne pourront pas se lier à ces rRNA. Ce que les expériences ont montré, c'est que dans ce cas-là, ces ribosomes-là qui n'ont plus de rRNA pour se lier, ils vont se lier aux ARN messagers des protéines ribosomales. Les protéines ribosomales en excès ils se lient au mRNA Mais s'ils se lient au mRNA, ils vont bloquer la traduction. Donc ça veut dire que ceux qui sont en excès, ils viennent bloquer la fabrication de ribosomes. Et ça, c'est un mécanisme qui permet d'ajuster MR au nombre d'ARN ribosomes. Ce que dit M. Hua, et j'avoue que je n'ai pas été chercher plus loin, c'est qu'ils vont se lier à celle-là. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez spectaculaire, je te l'accorde. Il y en a un deuxième, c'est que dans les bactéries, il y a une protéine qui s'appelle une alarmone. Alors une alarmone, c'est une hormone qui s'appelle PPGPP. Qui est quelque chose qui régule la transcription, cette fois, chez les bactéries. Si la transcription, si le nombre de... Donc ce qu'on veut réguler, c'est ça maintenant. Puisqu'on sait que le MR s'ajuste à ça, ce qu'on veut réguler, c'est les ARN ribosomaux. S'il y a très peu d'acides aminés dans la cellule, ce que fait cette hormone, c'est que, alors j'avoue que j'ignorais jusqu'au nom d'alarmone, que j'ai été obligé d'aller chercher dans Wikipédia ce que ça voulait dire. On voit bien d'où ça vient. Hein. Elle dit à la cellule, il n'y a pas assez d'acides aminés, donc vous bloquez les ARN ribosomaux. Donc la fraction d'ARN ribosomaux, elle tend vers zéro quand elle tend vers zéro. Et la fraction d'ARN ribosomaux, ce qu'elle contrôle, c'est la fraction des ARN des ribosomes qui vont faire des ribosomes. Donc si j'appelle qui de A, ce qui de A doit tendre vers zéro à cause de PPGPP qui est là, quand il y a très peu d'acides aminés dans la cellule. Maintenant, s'il y a beaucoup d'acides aminés, l'alarmone est inactive et la cellule laisse produire des ARN ribosomaux, et le nombre d'ARN ribosomaux augmente quand le nombre d'acides aminés augmente. Ça veut dire que cette fraction chi de A, c'est une fonction croissante. Donc ce qu'on régule maintenant, c'est ça. Et contrairement à tout ce que j'ai dit jusqu'ici, ce n'est pas la traduction qu'on régule, c'est la transcription cette fois, c'est la façon dont sont faits les ARN ribosomes. Maintenant, dans mon modèle, c'est absolument évident que chi de A, c'est phi R, parce que la stoichiométrie à cause de cet argument-là est fixée. Donc si je sais quelle est la fraction de ribosomes qui font des ribosomes, je vais trouver que la masse ici, en fraction, c'est exactement égal à chi A. Donc phi R est égal à chi de A. Ça veut dire que maintenant, j'ai une autre loi. Ici, j'ai une fonction croissante. Ça, c'est la régulation des ARN ribosomaux. Cette loi doit être satisfaite, celle-là doit être satisfaite. Et donc le A, qui est à l'équilibre dans la cellule, lorsque le flux se fait et que la régulation des ribosomes se fait bien, il est quelque part ici. Je vais l'appeler à bas. Oui. Pardon, c'est de l'autre côté qu'il faut que je le fasse. Tu as raison. Il y en a au moins un qui écoute, c'est bien. C'est ici qu'il faut que je le fasse. Ici, je vais... à barre. Si je reporte à barre ici, si je suis entre Canu et Kagama, je vais arriver sur le plateau qui est là. Ce que ça veut dire, c'est que si cette fonction qui de A, dont je n'ai pas d'idée précise de la forme qu'elle doit avoir, si elle coupe cette courbe entre Canu et Kabar, en gros... je suis au maximum du taux de croissance. Je n'ai jamais imposé le fait que la cellule devait optimiser son taux de croissance. Avec tous ces systèmes de régulation, j'obtiens qu'à l'arrière. Évidemment, sur mon déchet, j'ai fait un grand plateau, donc j'ai beaucoup de chances de taper sur le maximum. Mais si vous regardez les choses un peu plus réalistes, ils sont là. Donc voilà la courbe pour phi R de A que j'avais. Voilà chi de A. Puis on a un point d'équilibre qui est là, qui est dans cette région entre Canu et KR. Et si je retransporte ça, je vais me trouver pas loin du maximum. C'est pour ça que les gens écrivent que souvent que ce que fait la bactérie, c'est qu'elle optimise son taux de croissance dans les conditions d'acides aminés externes qu'elle a. Donc voilà l'explication pour ça du groupe de Terriwa. Ce que je veux retenir quand même là-dedans, c'est que ce qui compte, c'est le flux d'acides aminés à travers la cellule, et que ça, on l'a modélisé par le transport d'acides aminés et puis la consommation pour faire des protéines, qu'on a, de façon assez générique, une relation entre la fraction de masse de ribosomes par rapport aux protéines et puis la quantité d'acides aminés, et puis on a absolument besoin de cette régulation-là qui fixe le taux de croissance de la bactérie, et il semblerait que dans beaucoup de cas, on a un taux de croissance qui est très très voisin du maximum. Après, il y a des paramètres qui permettent de l'augmenter. Par exemple, nu 0, ce coefficient-là, augmente le taux de croissance. Nu 0, je vous ai dit qu'au moins, si le nombre d'acides aminés à l'extérieur est petit, il est proportionnel au nombre d'acides aminés à l'extérieur. Donc, si j'ai très peu d'acides aminés, on peut régler ce qui règle le taux de croissance, c'est ce paramètre nu qui est ici, et que je peux diminuer en fonction du taux d'acides aminés. Ce que j'ai bien aimé dans cette théorie-là, c'est qu'en faisant des hypothèses qui ne sont pas déraisonnables et qui partent très très près des manips, on arrive à construire un modèle théorique qui, à chaque étape, est assez raisonnable. Alors évidemment, ce que ça ne veut pas dire, c'est que je vous ai parlé de tous les mécanismes de régulation qui existent. Il y en a un certain nombre qui sont cohérents avec ça. Il y en a un certain nombre qui sont cohérents avec gamma. Il y a peut-être des choses qui se passent et qui ne sont pas dans ce modèle-là. Mais en tout cas, ça me paraît avoir une certaine cohérence. Et c'est ça qui m'a plu dans ce modèle-là. Et c'est pour ça que je voulais vous expliquer ça. Voilà, je m'arrête là. C'est la fin du cours de cette année. Et je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.